Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible et puis nous allons faire deux lectures, si vous voulez bien suivre avec moi. Nous allons partager une pensée dans le Nouveau Testament. Et tout cela, le but, c'est toujours pour édifier, construire notre foi, nous approcher toujours de plus en plus de celui qui est notre Sauveur et le Seigneur, non seulement de nos vies, mais le Seigneur des Seigneurs, Seigneur qui règne sur l'univers. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Commençons par cette lecture. 1 Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les nôtres, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et cela nous amène à lire maintenant deux textes dans le livre de l'Apocalypse. Premier texte, chapitre 8, verset 6. Apocalypse de Jean. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Maintenant, chapitre 9, verset 1er, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Voici ce que j'ai devant les yeux. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Adabdon et en grec Apollyon. Voilà, que Dieu nous bénisse. Vous avez déjà lu ce texte?
Ouais.
Ce n'est pas de la science-fiction. Et je ne me prêterai pas à des spéculations autour du texte. Mais je pense que c'est un avertissement qui est donné à l'Église en général des temps dans lesquels nous sommes et des temps dans lesquels nous allons encore pénétrer beaucoup plus profondément. Je m'explique. La cinquième trompette présente un tableau, permettez-moi l'expression, mais fantasmagorique, d'événements qui vont déferler sur la terre, et nous entrons à partir de ce chapitre 8 dans l'ère des jugements, où, eh bien, Dieu va changer, nous pouvons dire, le régime, en quelque sorte, de l'humanité, et nous allons changer de régime, le monde changera de régime, de la grâce, il passera au jugement. Il y a 12 versets qui décrivent, dans la troisième lecture que nous avons faite, qui décrivent le fléau qui surgit comme une calamité sans précédent. Il s'agit, selon l'image, d'une invasion de sauterelles d'un genre très particulier. Vous avez remarqué, il est question de sauterelles. Ça vous rappelle l'histoire des sauterelles dans le pays d'Égypte, hein ? Et c'est curieux parce que finalement, on l'a dans les premiers livres de la Bible et on l'a aussi à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Pour un oriental que je suis ou que vous êtes, qu'est-ce qu'un vol de sauterelles ? Une promenade dans les champs, vous en avez quelques-unes comme ça, une petite dizaine que vous foulez aux pieds puis qui s'en vont un peu, c'est très agréable. Et il n'y a rien à très impressionnant. On ne va pas s'effaroucher parce qu'il y a des sauterelles à la belle saison. Mais pour l'homme de l'Orient, et l'apôtre Jean écrivait pour les hommes de son temps, et il était lui-même un homme, eh bien, de l'Orient, du Moyen-Orient. Et il s'agit alors à ce moment-là d'une véritable catastrophe qui laisse la terre et partout où les sauterelles sévissent dans la dévastation. On a quelquefois eu des informations par les médias de certaines catastrophes dans certaines régions de notre planète. Je pense au Sahel, on en avait parlé. Puis certainement qu'encore aujourd'hui on en parle peut-être moins, mais toujours est-il qu'il y a certainement dans certaines régions de la Terre, eh bien, ce genre de phénomène. Et quand on parle de dévastation, c'est quelque chose, même sur le plan naturel. Il paraît que dans ce genre de phénomène, le ciel s'obscurcit, à tel point que le bruit en est assourdissant et que rien ne leur échappe, leur frénésie de dévorer est sans limite. À tel point que, une fois que, eh bien là, la catastrophe est passée, il ne reste plus rien de rien aux hommes. Ils sont obligés de s'exiler, de partir, parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien. Et rien ne leur échappe de ce qui est végétal. Alors, l'herbe, les plantes, le bois et l'écorce, naturellement, leur frénésie de dévorer est sans limite. Et il suffit de regarder quelquefois certaines images qui nous sont projetées sur nos écrans, de voir que c'est terrible. C'est une catastrophe, c'est une calamité de ce qui peut rester après un vol de sauterelles. Et pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Petite bête, mais alors, dans la multiplication, peut-être pourrions-nous employer le terme comme la Bible emploie, des myriades de myriades. Après une invasion de sauterelles, le spectacle restant est celui de la mort. Je crois que c'est le mot. Et je le prends à dessein parce que quand nous avons lu ce que nous lisons, eh bien, je crois que c'est véritablement le mot parce que jugement est synonyme aussi est associé au mot mort. Et ce n'est pas sans raison que l'apôtre Jean évoque ici ces insectes pour tenter d'expliquer, s'il est possible, la plus terrifiante invasion que le monde n'a jamais connue et que le monde connaîtra. Donc, dans ces images très fortes de notre Bible, particulièrement de l'Apocalypse, Jean, eh bien là, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, eh bien va décrire finalement à travers cette invasion de sauterelles ce que sera la caractéristique de la cinquième trompette. Et nous allons voir de quoi il s'agit. On l'a compris, il n'est pas question de véritables sauterelles dans le livre que nous avons saisi, elles sont prises en symbole, comme beaucoup de choses. Alors avec un symbole, on peut dire beaucoup de choses, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut, eh bien là, la Bible répond par elle-même. Et on n'a pas besoin d'aller chercher autre part que dans la Bible pour avoir les réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Il ne s'agit pas non plus de grandes invasions guerrières de l'histoire qui se produiraient une dernière fois à l'échelle mondiale, parce que des invasions que l'on pourrait nommer de sauterelles, il y en a eu dans notre histoire. Les invasions des barbares, hein, qui ont complètement décimé l'Empire romain, et puis toutes celles qui étaient avant dans l'Antiquité. Et puis les invasions de toutes sortes de hordes, hein, qui ont parcouru à la fois les steppes de l'Asie, qui sont venues jusqu'à nous, ou les armées de Napoléon, si vous voulez, on peut y associer les armées d'Hitler, etc. Ce sont des grandes invasions, ça aussi. Mais c'est pas ça non plus. Et on ne peut pas rester sur cette pensée, parce que ce n'est pas cette pensée-là qui est développée par Jean. Les envahisseurs dont il est question ne sont pas des hommes, mais des mauvais esprits. Et c'est là où nous sommes, où nous rentrons dans et nous saisissons la pensée qui nous a été donnée dans Timothée. L'esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des esprits séducteurs, des esprits de démons, des esprits qui viendront sur le monde et certainement, vraisemblablement, viendront frapper à la porte de l'Église pour voir s'il y a du répondant. Donc il s'agit d'esprits mauvais, tous coalisés pour livrer une ultime bataille à la création de Dieu, mais en particulier à l'homme. L'homme, je vous le rappelle, est le couronnement de la création de Dieu, même s'il a déchu, néanmoins, c'était ce que Dieu avait fait et qui était chargé de porter son témoignage et sa gloire. Et les démons ont une haine contre Dieu, mais ils ont une haine contre sa création, mais ils ont une haine particulièrement contre sa créature et la créature humaine. Alors, la terre entière, nous dévoile l'apôtre Jean, est investie par une invasion de hordes démoniaques, certes invisibles, mais pour autant bien réelles. Et si nous avons besoin de nous rafraîchir quelque peu la mémoire, il faut revenir dans ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, quand il nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des dominations, des principautés et des autorités dans les lieux célestes. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous le savons, parce que nous avons lu la Bible. Le monde l'ignore et cohabite dans son ignorance avec tout ce monde, mais toujours est-il que ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est vrai, et nous l'avons vérifié. Invisible, mais bien réel. Le biais par lequel ils s'infiltreront sera les progrès étourdissants, je souligne ce que je dis, étourdissants, des sciences occultes dans notre monde. Alors vous allez me dire, les sciences occultes, elles ont toujours existé. Quand on voit les anciens empires de l'Antiquité, les Chaldéens, les Babyloniens, les Égyptiens, et puis ce qu'il y a aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, eh bien là, il y a une recrudescence, une divulgation, une généralisation de ce que l'on peut appeler les sciences occultes, qui ne sont plus seulement, eh bien là, des sciences occultes qui sortent de notre environnement, mais que l'on va exporter aussi à travers toutes ces religions orientales, à travers toutes ces manières de se relaxer, de soyez zen. Et puis tout le reste, ça vient un peu de tous les côtés. Les hommes sont à la recherche de fouiller dans l'histoire, mais dans l'histoire occulte, et de regarder un petit peu du côté des Mayas, de regarder un petit peu du côté des Aztèques, quand c'est pas du côté du Tibet, des chamans des steppes de Sibérie, etc., ou alors de ce qui sort de ce continent africain pour essayer de se l'approprier, nous les Occidentaux, et de dire, eh bien, on va faire un petit peu tout ça, on va voir un peu ce qu'il y a derrière, parce que c'est quand même assez curieux, c'est assez intéressant, c'est mystérieux. Et ce développement se fera, il ne faut pas l'oublier, comme dans le jardin d'Éden, parce que c'est quand même Ève qui a ouvert la porte au diable, avec le consentement des hommes épris de surnaturel, d'expériences extrasensorielles, de puissance et de gloire. Alors, on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très très fort, ce genre d'approche. Et on se dit, eh bien, les gens ont besoin de sensations. Toute notre société d'aujourd'hui, de notre 21e siècle, est basée sur l'émotion. sur le raisonnement peut-être, mais le raisonnement est complètement submergé quand il y a l'émotion, le sensitif. Et automatiquement, c'est un appel, c'est une porte ouverte. Et il ne faut pas appeler très longtemps les mauvais esprits pour qu'ils viennent. Pas la peine de forcer. Puissance, gloire, sensation d'être quelqu'un, sensation de posséder un pouvoir. Alors les hommes sont très friands de cela. Et nous assistons par les relais de la médiatisation de notre monde, de la mondialisation aussi, à une sorte d'engouement sans précédent de la société humaine et à tous les niveaux. Et j'aimerais peut-être faire brièvement le tour en quoi cette invasion de puissance mauvaise, d'occultisme, de magie, d'astrologie, d'horoscope, enfin bon, on pourrait passer, il y en a une foule immense, mais à travers quoi, eh bien, finalement, il s'infiltre. Hein. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse, nous, c'est le religieux. Le religieux de notre temps, le religieux des derniers temps, se caractérisera par une imprégnation de la pensée impie, d'abord. Vous savez ce que c'est qu'un impie ? C'est quelqu'un qui croit que Dieu existe, mais qui a détourné, finalement, eh bien, à la fois la personne de Dieu, à la fois la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la personne, le caractère même de Dieu. Le monde des derniers temps se livrera à la dénégation de l'existence même de Dieu. Dieu n'existe pas. Et puis, ça s'infiltrera également par le rejet de l'absolu. Le siècle des Lumières a fait poser de grandes questions à l'homme. Mais est-ce que véritablement le bien, c'est le bien ? Est-ce que le mal, c'est le mal ? Donc, vous voyez, les fondements sont déjà quelque peu ébranlés. C'est de la philo. L'autorité de la parole de Dieu sera foulée aux pieds ou dénaturée. Quand on voit les grandes religions, on met beaucoup plus la place à la tradition et à toutes sortes d'observances ou d'observations qui n'ont rien à voir avec l'esprit de l'Évangile et la liberté que nous acquérons dans le salut en Jésus-Christ. Et tout ça sera amalgamé de superstitions. Les gens aiment bien se faire peur. D'ailleurs, on le voit à travers toutes les productions cinématographiques. Quand on voit ces effets spéciaux, les gens aiment bien se faire peur. On vient de... Vous savez, c'était Halloween. Vous n'êtes pas déguisé, hein, j'espère. Non, mais quand même. Hein. Non, mais ça donne des frissons. Hein. Enfin, pas à moi, parce que je crois que j'ai passé l'âge, mais quand même. Mais les gens aiment bien se faire peur. L'occulto-religieux pour amener au syncrétisme de la fin des temps qui nous y fait rentrer par le New Age, enfin le Nouvel Âge, pour aboutir à la super-église. Pourquoi il y a 36 religions sur la Terre ? Il n'y en aurait pas une ? Alors on va mettre les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, les uns et les autres ensemble, et on va se faire un dieu. Vous savez, comme à la tour de Babel. Ça, c'est le religieux. Mais les mauvais esprits passeront aussi par la politique des hommes, parce que c'est important. Qui recourt aux forces secrètes de l'occulte. Oui, ça se dit pas, mais ça se pratique, et c'est pas d'aujourd'hui. Pour faire front ou face aux problèmes insurmontables de notre temps. Parce qu'il faut dire que être à la tête d'un gouvernement ou être à la tête d'un État, c'est pas facile. C'est vrai, on peut prier pour eux, hein, parce qu'ils ont maille à partir quand même. Mais pour trouver des solutions, alors, ils touchent à beaucoup de choses. Et ça se sait. Et puis, un autre point qui agite notre société d'aujourd'hui, c'est le social. Les mauvais esprits ne restent pas en reste par rapport au social, qui est emporté par un vent de folie s'abattant sur l'activité des hommes. Soit pour les amener à se révolter, comme on le voit. Hein. Hey, garez votre voiture. L'activité des hommes. Soit pour réaliser des performances commerciales, parce que là aussi, il y a des choses qui sont douteuses. Ou alors, tout simplement, pour le recrutement de leaders, avec des méthodes à la fois discutables et irrationnelles. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Ça se fait de plus en plus. Ça ne se fait pas partout, et heureusement. Mais quand même, demander votre thème astral pour être embauché dans une entreprise, il faut déjà le faire. Ah oui, non mais, ça se fait, hein. Toutes sortes de choses. L'économie. Alors, on en a parlé il y a 15 jours de l'économie, enfin de nos petites économies à nous. Mais l'économie en général n'a rien à envier au phénomène de la société d'aujourd'hui, aux secteurs précédents, que ce soit la politique, le social, que ce soit le religieux. Alors l'économie défend, elle, le dieu des dieux, qui est le dieu de l'argent. Parce que là, s'il y a quelque chose qui compte dans notre monde, c'est bien l'argent et son pouvoir incontournable, objet de toutes les convoitises. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas pour de l'argent ? On parle depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec les histoires de drogue, d'argent sale. Alors, il est propre ou il est sale ? Mais c'est un pouvoir terrible. Quand on voit des pays comme l'URSS, la Russie aujourd'hui, qui se sont effondrés dans des... Enfin, je ne veux pas dire le mot. Mais c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Et reporter au quotidien, c'est la corruption. C'est la corruption des loisirs, c'est la corruption du plaisir, des idées, détournement et manipulation subtile de l'information qui n'a rien d'objectif en matière d'appréciation morale. Puisque quand il y a de l'argent, ou quand il y a le pouvoir en cause, ou quand il y a une influence, l'argent n'a pas d'odeur d'abord, hein, vous le savez. Alors à ce moment-là, on est prêt à tout. Et de dire qu'une chose qui est mal, on dira bah, elle est bien, parce qu'il y a un but à atteindre. Et si ne vous écoutez qu'uniquement cette version, eh bien, peut-être nous pouvons chavirer dans notre appréciation morale du monde et des choses. En tous les cas, c'est une manipulation en sous-main, discrète, où là, sur le plan moral et spirituel, il n'y a plus rien du tout. Vecteur docile, je parle de l'information, vecteur docile, on a bien dit que le journalisme était le quatrième ou le cinquième pouvoir, hein. Et il est très puissant, pas l'oublier. Vecteur docile et inconscient d'un état d'esprit qui n'est autre que celui qui prépare la venue. Vous dites de qui ? De l'antéchrist. Pas de Christ, bien sûr, de Christ, c'est sûr, mais de l'antéchrist. Conditionnement du monde. Ce vaste programme de conditionnement des mentalités, parce que ça se passe dans la tête de l'homme, et depuis longtemps commencé, Jardin d'Éden, c'était le premier coup d'envoi, on peut dire, l'inauguration, triste, dramatique. Et c'est à juste titre, si je reprends des paroles fameuses, que Satan pouvait dire à Jésus, dans ses 40 jours de tentation au désert, ce que je rappelle en ouvrant l'évangile de Luc au chapitre 4, laissez-moi si vous voulez simplement lire le texte, verset 5, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, il est généreux le diable, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » C'est un menteur. C'est lui qui l'a volé. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, condition, il n'y a rien sans rien, hein. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répond, eh bien, il est écrit dans la parole de mon Père qui est aux cieux, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Prince de ce monde, prince de la puissance de l'air, tel est ses noms. Il n'a pas qu'un nom, l'adversaire. C'est comme cela que la Bible nous le décrit. La puissance de l'air. Les gens qui lisent la Bible pour la première fois, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ? Un courant d'air ? Non, c'est pas un courant d'air. C'est que nous n'avons pas les capacités, les facultés pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus de notre tête. Mais c'est bien réel. C'est une réalité, sans décoller de la terre, hein, pour nous, mais néanmoins, ce sont des réalités. Alors, si l'on est ainsi, déjà maintenant, qu'en sera-t-il à la fin des jours ? Et là, maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans le vif de notre sujet, dans l'explication de notre texte, chapitre 9, où je rappelle les deux premiers versets. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. La vague déferlante d'esprit impur atteint ici son paroxysme. Il est question d'une étoile tombée du ciel. Ça vous rappelle peut-être certaines choses, certaines paroles. Cette étoile, c'est Satan. Parce que son mot, son nom, au début est désigné comme tel dans l'Ancien Testament, c'est Lucifer, qui veut dire être de lumière. À son origine, mais comme quoi on peut avoir une origine et puis être dévoyé. C'est le cas. La révolte donc de Lucifer et de ses anges avant l'histoire du monde nous est rapportée, mais je ne vais pas lire tous les chapitres parce que c'est assez long, Ézéchiel chapitre 28. Là, il y a un coin du voile qui est levé pour nous montrer l'arrière-plan dans ce monde spirituel, dans ce monde ténébreux. Un beau jour, Jésus avait prévenu ses disciples ainsi, et ça c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10, me semble-t-il, quand il dit ceci et prévient ses disciples, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et une étoile tombée du ciel », nous dit le texte de l'Apocalypse. D'où vient-il et d'où tombe-t-il? C'est intéressant de nous poser la question. Eh bien, la parole nous rappelle qu'il vient du puits de l'abîme. En tous les cas, lui, c'est peut-être une autre affaire. Mais toujours est-il que ses armées, en tous les cas, viennent du puits de l'abîme. C'est-à-dire la demeure des démons. Et il y a une clé pour ouvrir cette porte. Et cette clé est une allégorie qui signifie que Satan reçoit l'autorité pour faire sortir tous les démons retenus en prison. Mais posons-nous la question, pourquoi ils sont-ils en prison? C'est intéressant. Et depuis quand sont-ils en prison, ces armées, ces invasions, ces esprits diaboliques impurs et démoniaques? C'est le message évangélique qui nous répond. C'est pas l'Ancien Testament, c'est le message évangélique et son pouvoir de lier. Jésus en parle. Nous le retrouvons également dans l'évangile de Luc, dans ce chapitre 10. Et ce message évangélique et son pouvoir de lier est la raison, depuis 2000 ans, de christianisme qui a fait que, finalement, une grande partie, ou une partie, des puissances diaboliques de ces sauterelles, entre guillemets, ont été retenues dans ces régions de l'abîme. À partir de ce moment, toutes ces puissances infernales ont la liberté de se précipiter sur la terre et de se ruer sur l'humanité. Et avec quelle malignité vont-ils le faire? Ils vont agir remplis de rage furieuse d'avoir été si longtemps réduits à l'inaction. Et nous proclamons la puissance de l'Évangile quand Jésus nous dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel ». Et je crois que depuis que le christianisme existe, depuis qu'il y a des hommes, apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes et tout ce que vous voulez, qui ont été annoncés Jésus-Christ, et qu'à chaque fois que nous avons lié, dénoncé des démons, nous les avons envoyés, non pas dans des pourceaux, mais dans l'abîme. Ben, faut y croire. Hein. Et là où il y a eu des délivrances, là où il y a eu des Marie de Magdala, sept démons, libérés, et puis des gadaréniens, etc., etc. C'est pas seulement pour les temps évangéliques, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Dans le monde entier, partout, nous avons saisi par la foi la victoire et le triomphe de Jésus sur le péché, sur la mort et sur le mal, à ce moment-là, confrontés avec toutes ces puissances et que nous avons liées, ils sont bien quelque part. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir une théologie, je dirais, qui soit en conformité avec la parole. On n'est pas comme vos fils, comme dit Jésus, vous savez, dans cette histoire-là où Jésus est contesté par les pharisiens en disant qu'il a un démon. Parce qu'ils ont bien été quelque part, hein, ces démons. Alors, écoutez ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, quand il est question, finalement, que ces démons vont sortir à un moment donné à la cinquième trompette. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est dans les temps dans lesquels nous sommes. La porte est entrouverte, elle va s'ouvrir toute grande. Je ne peux pas vous dire la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que on ne va pas spéculer sur des choses qui ne sont pas à spéculer. Mais toujours est-il, on le ressent bien. On le ressent, mais on va aller un peu plus loin, vous allez voir qu'on n'est pas loin. Il est question aussi d'une épaisse fumée que l'on peut expliquer de la façon suivante. La présence aussi massive de démons déchaînés d'occultisme, parce que j'y mets aussi le support et le système, d'astrologie, d'occultisme, de spiritisme, de satanisme et de tout ce que vous voudrez qui touche finalement là à ce monde ténébreux de consultations occultes et de tous ces guérisseurs et de tous ces marabouts, derviches et tout ce que vous voudrez, alors cette présence aussi massive de démons déchaînés ne peut apporter avec elle que la confusion dans le monde des hommes. L'obscurité morale et spirituelle, en conséquence, les hommes s'égarent et vont s'égarer de plus en plus et ils deviennent fous. Ils vont devenir complètement dingues de leur affaire. Vous avez remarqué que ceux qui tripotent l'occultisme, ils deviennent fous. Et souvent, ils finissent par le suicide. Ça, j'en ai entendu souvent parler. Perdant la notion de la valeur des choses de la vie, et on peut utiliser ce verbe dans notre langue, on suffoque. L'Église est malheureuse. Parce qu'on sait ces choses et on vit dans un monde où il y a de la suffocation. Quand on voit, quand on entend, quand on suffoque dans une atmosphère qui devient de plus en plus irrespirable, l'existence humaine se pollue davantage. Et comme le diable est un spécialiste pour enfoncer les hommes encore, il leur met une petite couche d'incrédulité. Il les attire dans la dépravation, dans la révolte. Tout cela s'intensifie au point que le monde, téléguidé à son insu, mais il va chercher justement tout cela, sombre dans la superstition. Vous avez remarqué aujourd'hui, dans un siècle de rationalisme, combien les gens sont superstitieux. Ils se baladent avec des gris-gris, avec des médailles, avec de l'eau bénite, avec enfin tout ce que vous voudrez, la quincaillerie. En disant, c'est ceci, cela. Et puis les gens qui ne raisonnent pas ce qu'ils font. Des choses complètement, c'est vrai, qui sont apparemment anodines, mais qui montrent que finalement leur foi n'est pas en Dieu. Aller dans un trèfle à quatre feuilles, ou aller dans je touche du bois, ou ceci, cela. Non, mais ça fait rire. Et c'est beaucoup plus terrible qu'on le pense. C'est terrible, c'est dramatique. Superstition, idolâtrie, les plus grossières. Et quelquefois, on a affaire à des gens qui sont supérieurement intelligent sur le plan intellectuel, sur le plan des affaires, sur le plan de choses de la vie, et qui tombent dans des choses, mais qui, on se dit, mais c'est pas vrai, c'est incroyable. S'abaisser à ce point, parce que le diable fait avec l'homme, la créature, il fait ce qu'il en veut. Il suffit qu'il lui donne un petit peu d'amorce quelque part, puis en le faisant souffrir, l'homme cherche des solutions aussi. C'est lui qui le fait souffrir, et puis finalement pour le plonger encore davantage de souffrance. Vous remarquerez, dans notre texte, il y a une retenue qui est imposée à l'action des démons. Si les sauterelles naturelles d'ordinaire détruisent l'environnement végétal, là, c'est le contraire qui est constaté. La nature est préservée, vous l'avez lu avec moi, la nature ne fait pas de mal à l'herbe, et ceci et cela. La nature est préservée, mais c'est l'humanité qui est frappée. Et nous allons lire dans le verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions ou le scorpion quand il pique un homme. Curieusement, les hommes sont tourmentés, mais ils ne périssent pas. Et je crois que c'est toute la subtilité et la malignité du diable, c'est de tourmenter les hommes sans les faire mourir. C'est ce que l'on voit dans notre triste société. Les tourments à vie. Et des gens voudraient mourir, mais ne peuvent pas. Les tortures de l'enfer sont descendues dans le monde des hommes. Et le constat, c'est que notre siècle n'a jamais été autant touché par ce que j'appellerais les maladies dites de l'âme. On peut bénir le Seigneur d'avoir donné l'intelligence à ses chirurgiens, à ses médecins, du fonctionnement organique de l'homme, mais il y a une chose sur laquelle, là, on reste véritablement sans ressources, et que de malades de l'âme. Les gens, on arrive à faire des prouesses. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, quand il y a des opérations à cœur ouvert, il y a 30 ans, 40 ans, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, on fait des choses. J'ai un ami qui vient de se faire opérer dernièrement, là, du cœur. Bah, 8 jours après, il sortait de l'hôpital. Formidable. Mais alors, si vous allez dans un hôpital psy, alors là, on n'est pas sorti. C'est d'autres choses. C'est une autre affaire. Maladie de l'âme et de l'esprit. Mais ça se comprend. Vous savez que le diable est esprit, lui. Les psychoses, la psychiatrie, on n'a jamais entendu parler. Autant aujourd'hui. Aujourd'hui, encore et toujours sans solution et sans soulagement. Sinon qu'avec des médicaments qui vous endorment et qui font que votre environnement est tranquille, mais guérison, c'est autre chose. Pourvoyeur de suicidants dans notre siècle. On est compte qu'on nous dit qu'il y a 250 000, 300 000 tentatives de suicide par an. 13 000, 14 000 personnes qui meurent et qui arrivent à leur fin. C'est terrible. Les hommes sont tourmentés. À noter que les croyants en sont relativement préservés. Mais il faut faire attention quand même. Il y a des choses qu'il ne faut pas chatouiller. Comprenez ce que je veux dire? Il faut avoir une hygiène de vie, mes frères et sœurs. Vous allez me dire, c'est pas un prédicateur qu'on entend ce matin. Non, non, mais il faut avoir une hygiène de vie, parce que si vous poussez trop un peu sur les mécaniques, vous allez passer de l'autre côté. Et là, vous serez vulnérable et le diable va faire de vous ce que vous voudrez, ce qu'il voudra. Hygiène de vie. Le travail à sa place. Priorité à des choses qui, véritablement, vont vous stabiliser, vous équilibrer. Mais quelquefois, on voit que nos églises éclatent. Pourquoi? Parce qu'on oublie de recommander aux gens qu'ils aient une hygiène de vie, un équilibre de vie. Et ça, c'est important de le redire. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions. Vive et intolérable douleur, mais non mortelle. C'est dans leur queue qu'ils avaient le pouvoir de faire le mal. Ici, on ne se fait pas piqué par les scorpions dans notre région, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très fréquent dans d'autres pays. Ce qui indique un ennemi qu'on ne peut combattre en face, puisque son pouvoir est dans sa queue, derrière. On ne peut pas le combattre en face, et qui attaque sournoisement. Or, frères et sœurs, ce n'est pas en discutant qu'on leur échappe. Et quand on voit toute la théologie de nos religions modernes, où on passe plus de temps à descendre dans la veine de nos pour palabrer que véritablement pour nous tenir devant le Seigneur, le diable, excusez-moi, il rigole très fort. Tous nos séminaires et tout le reste, bon, il y a des choses à faire. Ça, j'en conviens, je ne veux pas radical. Il y a des choses qui sont à faire, mais quelquefois. Enfin, moi, je ne suis pas un homme d'appareil. Je comprends qu'il y en ait qui puissent rentrer dans toutes sortes de choses et qui ont les qualifications pour le faire. Mais je dis que parfois on discute sans fin pour arriver. On est en train de faire des discussions éléphantesques pour accoucher d'une souris. Et on perd son temps. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Pouvoir de raisonner et de suggestion chez l'ennemi. Et quand il nous occupe dans notre tête, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous remarquez avec moi qu'il est dit aussi que cette invasion satanique est limitée dans sa durée, 5 mois. De mai jusqu'à septembre. J'ai regardé ça dans les commentaires. Devant les épouvantables souffrances infligées, tourments, angoisses, frayeurs et obsessions, Dieu reste cependant souverain sur le déferlement infernal. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ce désir de mourir, c'est antinaturel. Hein. Parce que quand vous tombez à l'eau, vous essayez de remonter à la surface pour vous en tirer. Hein. Ça, c'est instinctif, c'est même pas à calculer. C'est comme ça, c'est... Et le désir de mourir que nous avons dans notre société. Vous vous rendez compte? Là, il y a 3 semaines, 1 mois, 2 jeunes filles sont descendues, là, passées par la fenêtre du 10e étage. Hein. Des adolescentes. Et puis, quand on voit tout ce qui se passe, des jeunes maintenant ont envie de mourir, des enfants se suicident à 12, 13 ans. Quand je parlais d'une hygiène de vie, il faut aussi qu'il y ait une hygiène de vie dans les familles, dans les couples. Parce que ça ne m'étonne pas qu'il y ait des enfants qui se balancent par-dessus les fenêtres. C'est triste. Ce désir de mourir est antinaturel. Ces suicides dont on parle tant, euthanasie programmée, est une des particularités de notre société en emprise satanique, aspiration à en finir au plus vite pour échapper. Mais échapper à quoi? Parce que finalement, le suicide, c'est une illusion. Tu ne souffriras plus, donne-toi la mort, tu ne souffriras plus. Ah non, c'est vraiment la porte d'entrée, véritablement, de les souffrances, il y a qui sont éternelles. C'est une conception d'incrédulité, mais inimaginable, le suicide. Parce que justement, c'est qu'on pense qu'il n'y a plus rien du tout, mais ça, c'est le mensonge. Tu meurs, tu es anéanti, il n'y a plus rien du tout, alors que c'est le plus gros mensonge. Parce que finalement, ça commence, mais pour l'éternité, fixé pour l'éternité. C'est terrible. Il y a du travail à faire auprès de ceux qui ont envie de mourir. Et je m'aperçois qu'il y en a aussi dans l'Église. Or, l'humanité sera plongée, l'humanité est plongée dans un dilemme quant à la mort, sans espoir et sans soulagement, ignorant le repos de la conscience et de l'esprit, et cela malgré ses inventions et palliatifs ingénieux, elle ne réussira pas à se débarrasser de l'aiguillon envenimé, et vous connaissez comment s'appelle cet aiguillon envenimé, c'est le péché. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. L'aiguillon envenimé, c'est le péché qui a infecté la plaie et qui a gangréné l'être entier. Et c'est la tragédie, c'est pour ça que quand nous prêchons l'Évangile, nous parlons de celui qui est venu pour enlever le péché du monde, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que nous avons chanté tout à l'heure. Maintenant, il y a 4 versets. Les 4 versets suivants répètent, écoutez bien, 9 fois les mots tels que « ressembler »,« comme », est semblable. Vous l'avez remarqué? Et quand j'ai lu la Bible, je me suis particulièrement appliqué à les relever un petit peu dans l'intonation. 9 fois, les 4 versets qui suivent, nous parlent donc du verbe ressembler, de comme et de semblable à. Ce qui confère à la description faite de ces sauterelles que toute leur force n'est qu'une apparence. Vous comprenez? Ce n'est qu'une apparence. Illusion et trompe-l'œil. C'est pour ça qu'il faut lire tous les mots dans la Bible. Parce qu'ils ont une signification. Et on les croirait de ce fait, puisque c'est comme, puisque c'est semblable à, c'est pareil. Alors on les croirait invincibles et irrésistibles. En fait, c'est un leurre dans lequel le monde tombe, et parfois peut-être les enfants de Dieu. Invisible, certes, mais les détails d'aspect qui nous les montrent ne sont que pour mettre en lumière leur caractère intérieur. L'apparence, oui, mais l'intérieur, attention, ce sont quand même des démons. Excusez-moi, j'enlève le mot même. Ce sont des démons. Alors on va prendre. Ils ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Le cheval a toujours été l'animal de prédilection de la guerre. Alors on veut faire autre chose. Mais dans toutes les guerres traditionnelles, on mettait la cavalerie. Hein. Les gens aguerris, être cavalier, être un militaire sur un cheval, c'était hussard. Alors à ce moment-là, c'était tout un prestige. Et le cheval, c'est la vaillance, c'est l'ardeur. De même que les mauvais esprits sont animés d'une ardeur ravageuse pour faire le plus de mal possible dans la rage et dans la fureur. Un cheval ne recule pas au combat. Il y va, même qu'il prend un boulet de canon, il y va parce qu'il est entraîné pour cela. Et au contraire, avant le combat, le cheval piaffe, il écume, il veut aller au combat. On l'a entraîné pour ça. Et ça, c'est l'image qui est donnée des démons. Il piaffe. Parce que le but, c'est de faire le plus de mal possible. Si nous poursuivons, nous lisons aussi « sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or ». L'or est le symbole de la divinité par son éclat et son inaltérabilité. La couronne, elle, marque la royauté, ce qui indique la prétention des démons à attirer l'allégeance puis l'adoration des hommes sur eux. Ça, c'était la proposition d'Éden. Ils prétendent aussi agir au nom et par l'autorité de Dieu. C'est une usurpation. Donc, nous trouvons dans cette phrase « sur leur tête comme des couronnes et semblables à de l'homme », c'est une fausse divinité, c'est une fausse royauté et c'est une fausse noblesse. Mais l'apôtre Paul nous le dit, Satan ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Vous connaissez ce texte? 2 Corinthiens chapitre 11 ou chapitre 12, chapitre 11. Allons encore un peu plus loin. Leur visage était comme des visages d'hommes, c'est-à-dire une approche bienveillante, un visage d'homme peut-être encourageant, peut-être engageant. Donc, une approche bienveillante affectant des sentiments et de l'intelligence à l'image des hommes, mais ayant l'apparence du bien et de l'innocence. Mais c'est une ruse pour capter la confiance des hommes dont le but est de les asservir ensuite encore plus gravement et plus totalement. Ils attirent, et puis ensuite, une fois que la main est mise, c'est terminé. On ne s'en sort plus. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femme. La chevelure fait la beauté et le charme de la femme. Dieu l'a créée ainsi. Et constitue un attrait très puissant. Les démons le savent parfaitement. Lorsqu'ils tendent leur piège autour du beau, autour du fascinant, du séduisant, et ils sont envoûteurs et enjôleurs à travers le beau. Ce qui est laid, nous n'allons pas vers le laid. Mais par contre, nous allons vers le beau. Nous sommes naturellement attirés vers ce qui est beau, c'est normal. Parce que Dieu a fait des belles choses dans la création. Mais le diable va s'arranger pour avoir finalement une approche qui ressemble à un visage d'homme, et puis aussi avec cette faculté du beau, de l'attrayant, du séduisant. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Visage d'homme, cheveux de femme, soudainement le masque tombe quand il ouvre la bouche. Et apparaissent des dents de la cruauté, nous dit le livre de l'Apocalypse. Passé le stade de la séduction, entre en jeu leur férocité. C'est ce que nous dit Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. « Soyez sobres et veillés, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il fera sa proie. » Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. La cuirasse est la protection de la poitrine pour les soldats, et ça protège le cœur aussi. Mise en évidence de leur insensibilité, impitoyable à la détresse de la créature humaine. Cette cuirasse les rend inaccessibles à la miséricorde de leurs victimes ou à la compassion de leurs victimes. Plus l'humanité s'enfonce dans le péché, plus elle se déshumanise et plus elle se dénature dans ses sentiments. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 3, c'est ce qu'il nous est dit, que les hommes, eh bien, à travers toute une liste qui nous est donnée, ils seront égoïstes, cruels, emportés, irreligieux, et beaucoup de choses comme ça. Je crois qu'il y a 18 propositions simplement en l'espace de 3 versets de ce qu'est le caractère de l'homme. Mais derrière, il y a le cœur de l'homme, le péché, mais il y a aussi une exploitation, faut pas l'oublier. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars. Les mauvais esprits connaissent la stratégie du bruit. Soit ils s'approchent comme le serpent, ou alors ils s'approchent comme le lion rugissant. Mais ils connaissent aussi la stratégie du bruit, du vacarme, des querelles. frères et sœurs, quand il y a des querelles dans une église ou des querelles dans un couple, ça ne vient pas du Seigneur. Pas possible. Du bruit, du vacarme, des querelles, soit pour enivrer les gens de bruit. Il y en a qui partent avec eux, hein ? Ou alors pour les exciter, ou encore pour les effrayer. Leur objectif, c'est impressionner leurs victimes, c'est aussi pour les terroriser afin qu'elles se livrent sans résistance. C'est toute la stratégie de la lionne ou du lion qui rugit, et là, à ce moment-là, la gazelle est prétifiée, et puis elle se laisse faire, finalement, en quelque sorte. Et enfin, ils avaient des queues semblables à des scorpions. Le dard, vous remarquerez, est caché sur ou dans leur dos. Pour montrer l'attaque rapide. Vous avez vu un scorpion quand il bouge ? Ça a l'air d'être une vulgaire bestiole comme ça, mais essayez d'y toucher ou essayez de... C'est comme les serpents, hein, c'est pareil, vous les voyez là. Puis si vous les toussez, vous allez voir, ils vont avoir une vitesse extraordinaire de réaction. Donc, une attaque si rapide qu'on ne s'en apercevra qu'une fois trop tard, c'est-à-dire une fois que vous êtes piqué ou une fois que vous êtes mordu. Les démons ne se démasquent que lorsqu'ils tiennent suffisamment leur victime. C'est une invasion organisée, et je termine. Elles avaient sur elles comme roi, parce que dans le monde de l'invisible, dans le monde des mauvais esprits, il y a une organisation. C'est un monde organisé. Il y a Satan, et puis il y a des démons de différentes classes, de différentes puissances, de différentes stratégies et même d'autonomie ou d'hégémonie. Il y a des démons sur certaines nations. Il y a des démons dans certaines localités qui se cachent derrière soit la politique ou la religion ou des choses comme ça. Autorité religieuse, autorité spirituelle, autorité de ce que vous voudrez. Mais ils sont en place et ils tiennent. Et ils tiennent la stratégie, ils tiennent la place. Voilà. C'est ce que nous dit Daniel hein, dans le chapitre 10 de son livre quand il nous parle qu'il a prié pendant 3 semaines, 21 jours, afin de déloger finalement le roi de... Comment c'est ? De Perse. Et derrière, il est bien montré que ce ne sont pas seulement un homme. Il y a un homme, mais il y a des démons derrière cet homme qui tient et qui a une mainmise finalement sur toute la région. Et il a fallu à Daniel qu'il ait la vision de Dieu, qu'il combatte, qu'il passe par quelque chose de terrible comme une agonie pour déloger ses puissances. Et là, c'est Dieu, je crois, si je me souviens bien, Dieu lui envoie un archange qui s'appelle Michael pour venir à son secours. Vous savez, on n'est pas dans un monde innocent, frères et sœurs. Peut-être que j'essaie de vous en convaincre, enfin le Seigneur vous en convainc ce matin, on n'est pas dans un monde innocent. Elles avaient donc sur elles comme un roi, l'ange de l'abîme en hébreu, Adabdon, grec, Apollyon. Et ça veut dire le destructeur. Donc maintenant c'est connu, hein. On sait, aucun sentiment, le destructeur, tout l'empire du mal, du péché, de la dépravation sera mobilisé pour investir la terre qui manifestera, et ça c'est étonnant, l'insouciance la plus complète. C'est terrible. On peut dire qu'on a du mal dans l'évangélisation, mais regardez les gens comment ils se comportent. Avant il y avait encore le sentiment dit religieux, encore une éducation, encore des fondements de christianisme, encore certains éléments, ils étaient ce qu'ils étaient, mais ils étaient là, qu'aujourd'hui il n'y a plus rien du tout. C'est dramatique pour ceux qui viennent après nous. L'insouciance la plus complète, voire la complaisance du jeu dangereux auquel se livre l'humanité par l'attrait grandissant, des sciences occultes, du spiritisme et autres trafics ténébreux. S'il était nécessaire de le dire, mes frères et sœurs, nous n'avons aucune accointance avec ce monde-là. Si nous avons des problèmes, des difficultés, tournons-nous vers le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il est le parfait guérisseur, mais ne touchons pas, ni de près ni de loin, à des gens qui peuvent vous dire « Ah ben vous savez, moi j'ai ma méthode, j'ai ceci et cela, et on viendra peut-être même vous l'apporter avec un vernis de christianisme. » Mes frères et sœurs, n'y touchez pas, je vous en supplie. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. De grâce, c'est extrêmement dangereux. Cette vague déferlante grossit et prépare ce qu'annonce depuis des siècles le livre de l'Apocalypse que nous avons ouvert ce matin. La conclusion, elle est simple. C'est que l'Église, c'est-à-dire vous et moi, nous avons encore notre place dans ce monde. On n'est peut-être pas très nombreux, mais nous avons encore notre raison d'être dans ce monde, notre mission d'avertir un monde désorienté. Quand Jésus nous donne cette parole pour rassurer son peuple, les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre mon Église. Eh bien, frères et sœurs, ne sous-estimons pas ce que le Seigneur nous a dit. Et n'ayons pas peur de vivre ce que nous avons à vivre. Nous aurons certainement des moments difficiles dans l'avenir. Toutes sortes de choses. Et nous voyons déjà s'appesantir le mal de plus en plus sur notre humanité, sur notre monde, parfois même sur nos églises. Mais Jésus nous a donné cette promesse, les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre nous. Et ça, nous pouvons bénir le Seigneur. Si nous gardons sa parole. Cette église vivante, cette église lucide, qui ne va pas dans un sens ou dans un autre. Parce que le problème, c'est que quelquefois, pour fuir certaines réalités, nous nous précipitons dans des extrêmes. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui déraillent. Vous voyez ce que je veux dire? Les petites lumières qui s'allument. Alors non, pas question. Il faut rester dans l'équilibre, frères et sœurs. L'équilibre. L'Église, donc, reste un rempart de protection pour offrir par l'Évangile l'antidote contre cette invasion venue de l'abîme. C'est une pollution occulte dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et nous avons besoin de respirer l'air pur, de la parole de Dieu, de nous attacher de plus en plus à Jésus-Christ et de lui dire, Seigneur, Jésus, viens et reviens bientôt. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que nous croyons, Père éternel, que nous sommes... C'est vrai, Seigneur, les vivants et les témoins d'une époque et d'un monde, c'est vrai, qui est un monde qui se caractérise par des choses que peut-être nos pères ou nos précédents n'ont jamais connues, mais qui néanmoins, Seigneur, alors que nous avons été avertis que nous ouvrons, Seigneur, ce livre que l'on appelle le livre de la Révélation, l'Apocalypse, alors tu nous mets en garde contre, en effet, Seigneur, toutes ces choses qui s'abattent sur ce monde. Seigneur, donne-nous d'avoir des réactions qui soient des réactions d'abord intelligentes, dans ce sens que tu veux que véritablement, eh bien là, nous soyons, Seigneur, debout, non pas sur le flanc, d'abord, et que nous n'avons aucunement à avoir peur ou à avoir des craintes, hein, parce que, Seigneur, la crainte et la peur est une mauvaise inspiratrice, et à ce moment-là, Seigneur, voulant contrer, Seigneur, ce déferlement, alors nous pouvons tomber aussi dans des travers contraires, et en voulant échapper au diable, nous allons tomber dans ses mains et dans son filet. Alors donne-nous, Seigneur, de rester équilibrés dans toutes les dimensions de notre vie, que ce soit notre vie sociale, que ce soit notre engagement de citoyen aussi dans une société, parce que tu nous as dit de vivre dans le monde, mais d'être préservés, tu nous as recommandé, et tu nous as donné, Seigneur, cette assurance que nous serions préservés du mal si nous voulons nous préserver nous-mêmes. Tu veux nous donner, Seigneur, aussi une vie spirituelle, une vie chrétienne qui soit aussi pleine d'équilibre. Et qu'ainsi tu nous donnes véritablement, Seigneur, de nous confier en toi, en ta grâce. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin, Seigneur, que dans ce monde, eh bien, tu nous as donné d'être la lumière, le sel. Donne-nous de remplir notre mission. Et je veux te demander, Seigneur, que tu nous fasses grâce, Seigneur, dans ce que le diable peut exploiter. Tu vois, Seigneur, que le monde la distille d'une manière très subtile. La destruction de cette humanité, mais distille aussi la destruction de la foi des chrétiens. Distille la destruction du corps de Christ à travers, eh bien, tout ce qu'il peut exploiter, c'est-à-dire, finalement, là, nos tendances d'une manière ou d'une autre, nos mauvais caractères, à travers nos critiques, à travers, Seigneur, nos hypocrisies, à travers toutes sortes de choses que nous n'appelons peut-être pas péché, mais qui, eh bien, en tous les cas, est bien répertoriée par l'adversaire pour l'exploiter. Alors, Seigneur, je te demande, l'Église est une. L'Église, Seigneur, est un corps. Et tu vois, Seigneur, les ravages actuellement, Seigneur, à travers toutes ces pensées, Seigneur, qui viennent percuter le peuple de Dieu, à travers des querelles, des disputes, des divisions, à travers des scissions dans les familles, à travers des colères, à travers, Seigneur, un certain orgueil mal placé, Seigneur, où tout le monde veut avoir raison. Alors, dans le nom de Jésus, interviens, révèle-toi, parce que si ce n'est pas pour Dieu tout cela, en tous les cas, c'est pas perdu pour le diable. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes ta grâce. Et révèle-toi et manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et une chose qui va pouvoir mettre en déroute, finalement, eh bien, les hordes de sauterelles, eh bien, c'est véritablement si nous nous aimons les uns les autres et si nous t'aimons comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus, je t'aime. Alors, à ce moment-là, Seigneur, nous savons que l'amour ne trouve aucune résonance ou aucune, là, eh bien, Seigneur, aucune compréhension chez le diable, parce que lui, c'est pas l'amour, c'est la haine. Alors, Seigneur, si nous nous aimons, à ce moment-là, nous fermons la porte. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Accorde ta grâce à ton peuple, dans ces temps de la fin, dans ces moments difficiles, et fais-nous grâce les uns et les autres, au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.